Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses, pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et aujourd'hui on va explorer un sujet que j'avais envie de partager en fait, c'est mon inspiration du moment, que j'ai intitulé, c'est l'épisode 153, que j'ai intitulé « Trois phases délicates que beaucoup connaissent en amour et dans le couple ». Et on va voir des solutions, plus que trois solutions, entre guillemets. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des solutions, mais on va voir, je vais t'en dire un peu plus dans un instant. Ce podcast, il m'a été inspiré en réfléchissant un peu. Je faisais des travaux dehors, il y a des choses à faire autour de la maison. Et, des fois, c'est là que la créativité, elle vient, tu vois. C'est un peu ces idées qu'on a quand on est sous la douche, quand on fait autre chose, quoi. Je me rappelais un peu des discussions que j'ai eues avec des auditeurs par email, plutôt des échanges, des conversations que j'ai eues avec les gens que j'accompagne, en observant autour de moi. J'ai écouté pas mal de contenu autour du couple aussi, d'autres podcasts, des thérapeutes, des psychologues, juste des gens qui sont comme moi, qui sont peut-être un peu plus autodidactes et qui parlent de ce sujet-là. Des auteurs, des témoignages aussi, des interviews de personnes, soit des extraits de séminaires, ce genre de choses-là. Et voilà, dans toutes ces sources-là, on va dire, d'informations autour du couple, toutes ces choses que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert ou que j'ai écouté ou que j'ai consommé, entre guillemets, d'une certaine manière, il y a trois phases de vie, il y a trois phases de couple que les couples connaissent que je trouve délicates à naviguer, que je vois les gens ont du mal à naviguer, en fait, surtout, hein. C'est pas que moi, c'est juste que je le vois aussi dans les gens que je rencontre, quand on fait des stages et que la thématique, c'est les relations dans les cercles de parole, etc., c'est des choses qui ressortent beaucoup, quoi, vraiment. Donc, je voulais te parler de ces trois phases-là. Alors, il pourrait y avoir bien d'autres phases à visiter ensemble, bien d'autres phases à décortiquer, bien d'autres solutions ou des pistes à donner sur ces autres phases-là. Et en même temps, voilà, c'est ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Du coup, c'est pas exhaustif sur tout ce que peut vivre un couple. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui peuvent être délicates. Et en même temps, voilà, c'était ça qui était là pour moi, ça que j'ai envie de partager, ça qui me semble important, et ça peut parler à pas mal de monde, du moins je l'espère, et voilà, peut-être que les solutions que je menais dans le titre de l'épisode, ça fait un titre un peu accrocheur, hein, mais est-ce que c'est vraiment des solutions, je sais pas, c'est peut-être plutôt des pistes, des choses à essayer, des choses à essayer, à ajuster, réessayer, réajuster, réessayer, réajuster, enfin tu vois ce que je veux dire, des choses avec lesquelles... Voilà, des choses à mettre en place, quoi, et puis à voir si ça te va, c'est peut-être des pistes qui vont te donner réflexion, qui vont te faire réfléchir, qui vont te poser des questions plutôt que de donner des réponses, et sur lesquelles toi tu vas trouver une autre chose, tu vas te mettre en chemin par rapport à ça, tu vas aller lire un livre, tu vas aller écouter un autre podcast, tu vas faire des choses qui vont t'amener à ta propre solution, en fait. Donc voilà, c'est pas, je sais pas s'il y aura des solutions dans ce que je vais t'amener, mais peut-être. Si c'est le cas, c'est très bien, et en même temps, c'est pas le but. C'est pas le but non plus, c'est de t'aider à trouver tes propres questions, faire ton propre cheminement, peut-être avoir des conversations dans ton couple avec ton ou ta chérie, des choses que tu peux creuser à ce niveau-là, et se dire, là, nous on est dans cette phase-là, on la gère plutôt bien, mais la prochaine c'est sûrement celle-là, du coup, ok, comment on anticipe ça, qu'est-ce qu'on fait déjà qui va nous conduire à cette phase-là, qu'est-ce qu'on peut éviter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire de la prévention, entre guillemets, c'est comme avec la santé, hein, y a des choses que tu peux mettre en prévention, quoi, des fois. Donc c'est, ça peut servir à ça, ce podcast, éventuellement, et c'est aussi, moi je trouve, une sorte de voie à l'autonomie, c'est-à-dire que si à chaque fois t'attends que je te donne la solution à ton problème, ou moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, hein, que ce soit hein, que tu dépendes d'un thérapeute, que tu dépendes d'un auteur, que tu dépendes d'un psychologue, que tu dépendes d'un... si moi j'ai pas de réponse à ton problème à toi, déjà tu vas être bloqué, donc c'est aussi cette invitation à se poser des questions, à cheminer, à discuter, c'est aussi pour que tu ailles vers une sorte d'autonomie, ou que tu aies ce réflexe-là, ce muscle-là de « ok, comment je fais quoi ?» J'apprends à réfléchir par moi-même autour de la relation, parfois j'ai des pistes. Bien sûr, tu peux t'inspirer de ce podcast-là ou d'un autre, hein, ou d'un autre bouquin, etc., pour avoir des idées, des pistes de réflexion, des choses comme ça. Parfois, c'est des réflexions que tu auras seul, des fois, c'est des conversations que tu auras avec ton partenaire, c'est comme ça que ça peut évoluer, quoi. Et puis, tu vas trouver tes propres solutions. Et puis, une fois que tu as fait tout ce chemin-là, entre guillemets, de réflexion, d'analyse, de trouver des solutions, c'est toujours le mettre en test avec le réel, quoi. C'est l'appliquer dans ta relation et voir est-ce que ça fonctionne. Et c'est comme ça, est-ce que ça a les conséquences qu'on voulait? Est-ce que ça crée ce qu'on voulait? Non, on voulait ça, c'était ça notre intention de départ. On voulait aller là avec notre relation et ben, on est allé ici à la place. C'est peut-être très bien ici. Peut-être tu savais pas que tu pouvais aller ici, tu pensais vouloir aller à droite et puis tu te retrouves un peu plus à gauche que tu pensais. En fait, ça te va très bien et ça peut être aussi super parce que des fois, on n'arrive pas à tout imaginer, tout ce qui est possible. On va le créer un peu au hasard, un peu maladroitement et ça peut nous aller très bien aussi. Donc voilà, le mettre en test, faire voilà avec l'épreuve du réel entre guillemets et repasser par cette étape de questionnement, d'analyse, de d'essais-erreurs et de d'évolution quoi entre guillemets en répétant ce processus quoi. Donc c'est ça qui que je trouve intéressant et que tu peux faire que tu peux peut-être faire dans d'autres domaines de ta vie, peut-être pas toujours dans le couple. Et je pense qu'il est intéressant et ce que j'amène aujourd'hui, j'espère que ça peut t'aider à faire ça quoi. Déjà t'aider à traverser ou t'accompagner à traverser des choses qui sont délicates et éventuellement te donner des une sorte d'élan de voilà, pour aller vers quelque chose peut-être de plus autonome, on va dire, pour trouver tes propres solutions, élargir un peu aussi. Parce que ce que j'ai trouvé super au début, quand j'ai commencé à lire sur le couple, à apprendre sur le couple, et qui m'a permis de gagner en autonomie plus tard, c'est d'étendre ma compréhension de ce qui est possible. Moi, j'avais une certaine vision de c'était quoi les relations amoureuses, qu'est-ce que j'attendais de ma partenaire, comment je voulais être dans ces relations, etc. Et puis, voilà, ça venait de mon enfance, de ce que j'ai vu autour de moi, etc. Et puis j'ai découvert un peu, j'ai lu, j'ai écouté, je suis allé dans un séminaire, des gens qui parlaient du couple, pas que, du développement personnel, mais des fois ils parlaient des relations, des trucs comme ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers entier de possibilités. Alors bien sûr, il y a des choses que j'ai prises, des choses que j'ai pas prises, des choses que j'ai laissées, des choses que j'ai essayées qui allaient pas ou qui allaient que pour un moment, etc. Mais ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tout ce qui était possible, entre guillemets. Sûrement pas de tout d'ailleurs, mais de plus que ce que moi je connaissais. Et derrière, ça m'a permis d'élargir un peu mon champ des possibles et du coup de me dire bon, voilà, c'est ça que je veux, ça, et puis de créer des fois des choses quoi. Donc ça peut être intéressant de faire ce chemin-là. J'espère que ce podcast t'aide à faire ça, à étendre un peu ton champ des possibles, à aller vers quelque chose de plus large autour du couple, te rendre compte qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres solutions, il y a d'autres manières de le vivre, il y a d'autres manières de le faire. Et en même temps, c'est peut-être pas pour toi, et en même temps, c'est peut-être pour toi, qui sait, on sait pas trop. Moi, je sais pas trop pour toi, en tout cas, c'est à toi de voir ce qui te parle. Moi, en tout cas, c'était vraiment une étape qui m'a fait beaucoup de bien, me rendre compte qu'il y a d'autres manières de faire que ce que je pensais, et là, de me dire, okay, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Peut-être avec cette introduction qui a un peu glissé, on va aller vers la première étape, la première phase, la première complication que tu peux rencontrer. Quand tu veux être en couple, c'est peut-être pour les gens qui ont du mal à être en couple. Il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui sont célibataires. C'est pas mal d'emails que j'ai. C'est « je suis célibataire, qu'est-ce que je fais ?» entre guillemets. Donc, moi, je suis pas... Il y a des gens qui parlent beaucoup plus de ça, hein, de se mettre en couple, des love coach, des gens qui vont aller vers peut-être plus vers la drague, ce genre de choses. Moi, c'est moins un endroit où je me sens à l'aise. Moi, les relations, en général, se font assez naturellement. Et je vais te partager les conseils que je suis moi-même, que j'ai suivi d'autres personnes, sans être un expert de la drague, sans être un expert de ça, du dating, parce que je suis pas sûr que c'est comme ça que ça se fait les relations, du moins c'est pas comme ça que ça se fait pour moi. Et du coup, c'est pas de ces gens-là que j'apprends, c'est pas de ces experts de dating que j'apprends, pour les périodes de ma vie où j'étais célibataire, tout simplement, où j'ai besoin de faire des rencontres. Donc là, le challenge, hein, c'est... Moi, j'ai rien contre le célibat. Ça peut être très bien, le célibat. Souvent, ce que je vois, c'est que les gens qui viennent me voir et qui m'en parlent, c'est des gens qui subissent le célibat, c'est des gens qui aimeraient être en couple, c'est des gens qui ne sont pas heureux célibataires, donc des gens qui ont envie d'aller vers la relation à deux, qui ont envie d'aller vers l'autre, et ou des gens qui soit trouvent des gens, mais c'est pas nécessairement la bonne personne avec qui construire. Soit ils n'arrivent pas à se mettre en couple et ils souffrent de ça, soit... ils se mettent avec des gens qui ne sont pas nécessairement bons pour eux. Alors, on n'est pas toujours dans des relations toxiques, des relations abusives, des choses qui sont vraiment mal, entre guillemets, mais vraiment qui font mal, qui blessent, etc., qui peuvent être dangereuses pour l'intégrité de la personne, mais simplement de trouver quelqu'un qui peut-être pas vraiment compatible, etc. Donc, un des conseils moi, que je peux donner, alors bien sûr, tu peux essayer les apps, tu peux aller voir des gens qui vont te parler de séduction, qui vont pas... c'est pas inutile, toutes ces choses-là. Moi, l'angle que je prends, il est assez différent. c'est de faire des choses que tu aimes. Je vais te prendre un exemple, en fait, tout simplement, et de les faire pas tout seul, de les faire avec d'autres personnes, bien sûr. Deux, trois petits pièges quand on pense à ça. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui aiment sortir. Et quand tu aimes sortir, bah, des fois, tu te dis, bah, je vais aller rencontrer l'autre au bar, je vais aller rencontrer l'autre en boîte, je vais aller... Oui, bien sûr. Mais peut-être que tu as des inspirations spirituelles, de bien-être, de pas fumer, de pas manger de viande, de faire du sport régulièrement, etc. Et peut-être que si tu vas dans les bars, bon, disons, tu as quand même une chance de rencontrer quelqu'un qui a ces choses-là, quoi. Mais moi, ça m'est arrivé, entre guillemets, avec mon ex-épouse. C'était un meet-up, il y a un site qui s'appelle meetup.com où tu fais des rencontres sociales, c'est pas des rencontres de dating. Et c'est vraiment plus, tu peux tout faire, tu peux trouver des gens pour faire du tennis, alors c'est plus dans les grandes villes, je sais pas si c'est très populaire en France, j'étais à l'étranger à l'époque, mais dans les grandes villes ça peut bien marcher si c'est populaire en France, tu trouves des gens pour aller faire de la rando, pour aller faire, je sais pas, une soirée jeux de société, une soirée laser game, ce genre de trucs, quoi, c'est vraiment du social, et bien sûr quand tu fais du social, tu peux faire une rencontre amoureuse, et c'est un peu mon invitation, c'est... à aller faire des rencontres sociales, en fait, avant d'être vraiment dans le dating, plutôt que d'être vraiment dans le dating et de faire du speed dating ou des apps, ou des rencontres, des trucs comme ça, c'est fais des choses que t'aimes avec des gens que t'aimes, et puis peut-être qu'il y a un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui, voilà. Le risque, ici, c'est que les gens qui sont déjà dans un cercle social un peu fermé, un peu habituel, toujours les mêmes amis, c'est qu'il n'y a pas de rencontre de nouvelles personnes. Donc, bien sûr, ils sont déjà socialement très actifs, mais ils ne rencontrent pas de nouvelles personnes. Donc, l'invitation ici, ce serait de faire des choses que t'aimes. Et si t'aimes la spiritualité, ben ouais, va faire d'autres cours de yoga, va faire d'autres cours de qigong, va faire d'autres cours de sport, va dans une autre salle, va dans un autre endroit avec une autre prof. Bouge un peu, quoi. Sors un peu de ton petit écosystème, de ton je sais plus comment on dit, de ton silo, entre guillemets, quoi. Sors un peu de ça, et fais des choses que t'aimes, et pense pas nécessairement qu'il faut absolument sortir, aller boire des canons, ou trouver des gens dans les bars pour rencontrer... des personnes. Bien sûr, si c'est ce que t'aimes faire à ton activité principale, ou jouer de la musique, va à des concerts, va à ce genre de trucs, quoi. Mais rappelle-toi aussi que t'as sûrement d'autres inspirations que ça. Donc, si tu rencontres une personne au yoga, par exemple, ben, y a pas que le yoga dans ta vie, donc faut voir s'il y a d'autres choses qui te vont, et on va y aller dans un instant. Et si tu rencontres avec quelqu'un dans un bar, ben, si tu trouves un fêtard qui picole, ou une fêtarde qui picole, et toi t'as envie de fonder une famille, c'est peut-être pas la personne qui te faut, en fait, entre guillemets, tu vois. Donc, voilà, mets toujours ça dans le contexte, c'est de trouver des activités, des endroits où tu peux rencontrer à la fois des nouvelles personnes et à la fois faire des choses authentiques que toi tu aimes. Comme ça, tu vas rencontrer des gens qui ont des atomes crochus, tu vas rencontrer des gens qui ont des valeurs plus proches des tiennes, des gens qui vivent avec un mode de vie qui est plus proche du tien. Tu vois, moi j'ai grandi pas mal à la campagne, j'étais en ville pour mes choix, on va dire pour 10 ans professionnellement dans des grandes villes, en Irlande principalement. Mais entre ma vie à la campagne, en Sud-Isère ou en Haute-Savoie, ou avec des gens qui sont plutôt dans des modes de vie alternatifs, etc., et des modes de vie plutôt urbains, de boîtes un peu, des boîtes internationales, corporate, etc., avec des gens qui sont plutôt de citadins, quoi. C'est pas du tout les mêmes personnes, je fais pas du tout les mêmes rencontres dans ces deux mondes-là, et du coup, si moi j'inspire à une vie un peu plus alternative, si je reste en ville, que je travaille dans une boîte corporate, que je vais à la salle de sport en ville, enfin tu vois, c'est compliqué de rencontrer ces gens-là, quoi. Faut peut-être que je me trouve des groupes où ces gens qui ont ces idées-là, elles soient présentes, quoi. Ça peut être aussi des groupes en ligne, ça peut être des choses comme ça, donc ça peut être intéressant pour faire des rencontres éventuellement amoureuses, peut-être enlever la pression du dating, passer par quelque chose de social pour rencontrer les gens comme ils sont, vraiment, là où tu trouves un groupe de randonnée, tu vas faire une rando. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui te plaît, que toi tu lui plais, peut-être qu'il va y avoir un peu du jeu de séduction, il va y avoir un peu du dating qui va se mettre en place, entre guillemets, et quelques masques qui vont être ajoutés. Mais tu vas rencontrer la personne dans son environnement. Peut-être que s'il est aussi nouveau ou nouvelle dans le groupe comme toi, et que tu vas voir les maladresses, les gènes, les trucs, peut-être que c'est le leader du groupe, c'est lui qui organise, et tu vas le voir avec du charisme. Peu importe. Et tu vas rencontrer les gens dans leur univers à eux déjà. Alors que des fois, quand on trouve quelqu'un sur une app, et qu'on fait une première date, on va au restaurant, on suit des espèces de codes sociaux, on se rajoute des règles, on se rajoute des choses, et ça laisse pas toujours place à l'authenticité. Donc voilà, trouve des gens comme dans ces cercles-là, on va dire, dans des choses que t'aimes, peut-être trouve des nouveaux cercles s'il y a besoin d'étendre un peu, parce que voilà, peut-être que tu vis soit en ville, soit à la campagne. Moi je sais qu'à la campagne, des fois je trouve ça un peu plus dur, parce qu'il y a juste moins de monde, il y a moins de choix, des fois il faut faire plus de voitures, il faut aller plus loin, quoi, ça demande plus d'efforts. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on cherche parfois les bonnes personnes au mauvais endroit, entre guillemets, et notamment en sortant trop, on va dire, faire la fête dans les bars, etc., on rencontre des gens qui ont ces intérêts-là, et des fois, c'est des gens qui ont qui sont beaucoup trop là-dedans pour ce que toi tu veux créer, un couple conscient, un couple, etc. Peut-être que tu vas en retraite de yoga, en retraite de tantra, peut-être que tu vas faire des rencontres, et là peut-être que tu vas rencontrer des gens qui sont trop dans d'autres choses, par exemple, qui sont pas assez dans les relations engagées, qui sont pas assez dans les relations exclusives, par exemple, ce genre de choses, ça peut être ce genre de problématique aussi, hein. Selon les tranches d'âge, etc., ça, moi, des personnes qui venaient à nos ateliers, qui avaient du mal à... Voilà, qui étaient dans quelque chose d'assez spirituel, peut-être un peu plus âgé que moi, et qui ont rencontré que des gens qui voulaient faire du polyamour et des relations légères, qui voulaient plus prendre la tête avec le couple, et du coup, bah, ouais, ça peut être aussi, des fois, quand toi, t'es un peu en décalé par rapport aux attentes des gens dans le cercle social dans lequel t'es, ou dans les activités que tu fais, ce qui, on va dire, une certaine norme, on va dire, ou certaines manières de voir les choses, bah, ça peut être compliqué, du coup, de trouver, donc c'est peut-être à ajuster un peu, quoi, trouver des endroits où peut-être tes envies, tes besoins, tes inspirations relationnelles sont partagées avec les autres, et voir comment tu peux rentrer en rencontre à ce niveau-là, quoi. Donc ça me paraît important, l'invitation de vraiment de sortir ton cercle habituel, et peut-être d'aller sur de nouveaux groupes dans un autre endroit, etc., c'est... Il y a quand même un certain facteur d'être exposé à un nombre d'autres personnes pour rencontrer quelqu'un qui te va, en fait. Si tu es toujours avec les mêmes amis, tu sors toujours avec les mêmes personnes, voilà, c'est compliqué de faire des rencontres, donc c'est aussi pour ça, quoi. Et à un moment donné, il faut pouvoir trouver d'autres personnes à rencontrer, qui ont une chance d'être alignées avec toi à plein de niveaux, d'avoir des choses qui matchent. J'avais fait des podcasts il y a, je sais pas, allez... 2-3 ans sur la phase, il y a plus de 3 ans, c'est ce que je traversais, hein, c'était séparation, donc j'avais fait quelques podcasts sur la séparation, podcasts sur re-rencontrer quelqu'un, donc j'avais profité de mon expérience personnelle et de mes lectures et de mes écoutes, etc., pour faire vraiment un peu ce, voilà, partager plus ou moins directement, je sais plus si j'en parlais ouvertement dans le podcast, mais c'est ce que je vivais moi à ce moment-là, donc voilà, te partager tout ça. Donc il y a des podcasts, il y a des articles qui sont dédiés vraiment au début de relation, comment bien faire un début de relation. Donc si tu cherches sur en amour, début de relation, etc., tu vas trouver des choses. Aujourd'hui, je vais te donner qu'un essentiel pour peut-être poser des bonnes bases en début de relation, pour pas que ce podcast soit trop long, parce qu'il y a deux choses qu'on va aller voir ensuite après cette première phase. Et l'essentiel que je voulais te donner, c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, ce qui est non négociable, ce que d'autres appellent des fois ce qui est structurel. C'est qu'au début de ta relation, ça va être important de bien la cadrer, entre guillemets, de bien comprendre avec qui tu t'engages et pourquoi tu t'engages. Et du coup, te concentrer sur ce qui est non négociable et ce qui est structurel pour toi, ça veut dire les choses sur lesquelles tu ne peux pas faire de compromis. Donc moi, je vais te prendre un exemple personnel, c'est quelqu'un qui fume, c'est pas possible pour moi. Je suis non-fumeur, je tolère très mal l'odeur de la cigarette, donc je peux pas me mettre en couple et créer quelque chose et vivre avec quelqu'un qui fume. C'est pas possible pour moi. Donc ça, pour moi, c'est dans ce qui est structurel, ce qui est mon non négociable. Ça peut être des choses aussi simples que ça. Est-ce qu'il veut un chat? Est-ce qu'elle veut un chat? Est-ce qu'elle veut des enfants? Est-ce qu'elle veut pas d'enfants? Etc. Il peut y avoir des choses qui sont structurelles. Moi, ma compagne, par exemple, une chose qui était structurelle, c'est veut pas d'enfants. Ok, très bien, elle a eu ses enfants, etc. C'est une phase de sa vie qu'elle veut pas nécessairement réouvrir. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut être au clair dessus en début de relation, ou avant même de t'engager dans la relation, pour te dire, ok, c'est ok pour moi, quoi. J'ai envie, ça me va, il y a ton structurel à toi, qui est non négociable, sur lequel on ne fera pas de compromis, que moi je dois être en paix avec ça, je dois pouvoir accepter ça, je dois pouvoir respecter ce cadre-là, il y a mon non négociable à moi, mon structurel à moi, que toi tu vas devoir respecter, entre guillemets. Donc des choses comme ça, il y a aussi des choses, moi, que je mettrais dans le structurel, autour peut-être la qualité de la connexion, la qualité de la communication, la qualité de la présence. Peut-être ça peut être aussi, je sais pas moi, une certaine mobilité, tu vis en van, t'es assez nomade, etc., ce qui est pas du tout mon cas, moi, on vient d'acheter une maison, donc c'est pas ça du tout, mais peut-être d'autres choses, c'est d'élargir un peu, de donner d'autres idées. Tu vis une vie nomade, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui a une certaine flexibilité. Si tu trouves un employé qui travaille en ville, qui doit être, tu vois, ça va être compliqué, quoi, d'avoir le mode de vie que tu veux, donc il faut chercher des gens qui ont un mode de vie alternatif, etc. Donc, et ça, le mettre dans ton structurel, donc ça peut demander vraiment un travail de réflexion personnelle pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est structurel pour toi. Et ici, un des pièges, c'est pour les gens qui ont un peu besoin de contrôle, qui ont peur d'être blessés, qui sont dans une certaine rigidité, c'est d'avoir un structurel qui est tellement étendu, tellement grand, il y a tellement de choses, il y a 50 trucs structurels, quoi. Il peut pas être comme ça, elle peut pas être comme ça, il y a ci, il y a ça. C'est impossible que quelqu'un rentre dans tes critères, en fait. Donc là, si tu réfléchis un peu à ça, que tu te rends compte que, waouh, je suis chiant, en fait, entre guillemets, quoi. Je suis un peu rigide, là. C'est pas nécessairement que Oui, il peut y avoir de l'exigence. Et ça peut être bien d'avoir de l'exigence sur certaines choses. Je dis la qualité de la communication, la qualité de la présence, une certaine qualité au niveau de la sexualité, peut-être, que tu veux soit du sexe, on va dire, de ouf, type porno, je sais pas, ou l'inverse, vraiment de la connexion, de la douceur, de la tendresse, peu importe ce que tu veux, mais être au clair là-dessus, quoi. Quel type de relation tu veux à plusieurs niveaux, et te dire, bah, moi, je peux pas faire. Je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça ou c'est enfin voilà être en paix avec ça. Et si ta liste est trop longue, bah peut-être faire un travail avec un thérapeute, te faire accompagner pour vraiment régler ce besoin de contrôle, de voir tes insécurités, voir tes blessures passées, tes traumas passés, te dire bah pourquoi j'ai besoin de tout ça en fait pour être en sécurité avec quelqu'un, pourquoi j'ai besoin de 17 trucs ou de 40 trucs, pourquoi j'ai besoin de tout ce cadre-là en fait alors que peut-être qu'il y a des gens pour qui il y a 3-4 trucs quoi. Moi je connais des gens pour qui leur structurel il est assez limité. Il y a des choses qui sont vraiment essentielles pour eux et c'est très dur de rencontrer quelqu'un qui en même temps a tout ça, mais c'est pas impossible du coup. Et il y a des gens qui ont une compatibilité avec toi. Parce que le problème du structurel, s'il est incompatible, c'est que ça va. C'est, si tu regardes en arrière, si tu arrives à être honnête avec toi-même et assez conscient pour être à peu près au clair sur la majorité de ce qui est structurel pour toi, peut-être il y a de l'inconscient et c'est ok, c'est encore de l'inconscient, mais une fois que tu as cette liste. Qui est à peu près faite, ben voilà, observe-la, peut-être partage-la avec des amis, des proches, et te dire, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'il y a un travail à faire, est-ce que ça pointe des insécurités, et puis fais un travail s'il y a besoin, si tu as envie, si tu penses que ça ferait du bien à toi, en fait. Moi, des fois, je me suis rendu compte que dans ma manière d'être en couple, il y a des parties de moi, ou partiellement des parties de moi, qui m'allait pas, entre guillemets, sur lequel je me dis, bah là, faut que j'aille travailler, c'est peut-être pas dans mon structurel, mais c'est peut-être dans ma manière d'être, dans ma manière de communiquer, dans ma dépendance affective, dans des choses comme ça. Je me suis dit, bah là, si je rentre en couple avec ça, et que c'est prendre trop de place, bah ça va être compliqué, en fait. Ça va vraiment être compliqué pour la relation, pour le bien-être de la relation, pour la qualité de la relation, et du coup, bah, ouais, il va falloir que je me mette au boulot, quoi. Ça va pas se faire tout seul. Et si je le fais pas, je vais, entre guillemets, pourrir mes relations avec ça. Bon. Voilà, on pourrit tous nos relations avec des trucs, hein, donc c'est pas en soi. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Ça dépend un peu de l'intensité, de quelle vitesse on pourrit les choses et comment on le vit, mais c'est ok d'avoir ces choses-là, quoi. Ces choses qui sont structurelles, qui peuvent paraître un peu rigides, ces choses sur lesquelles vont abîmer un peu tes relations parce que t'as ces blessures-là, etc. Et en même temps, si vraiment ça te va pas, bah, y a que toi qui va pouvoir le changer, y a que toi qui peux faire ce boulot, donc faut se mettre en chemin, entre guillemets, quoi. Sur une voie spirituelle, en thérapie, avec un psychologue, et y a plein de modalités aujourd'hui qui peuvent te permettre de faire ça. Donc ça, c'était un peu peut-être la première étape, la première phase qui est compliquée, c'est se mettre en couple, trouver la bonne personne. Donc l'idée, c'est de peut-être passer par des choses plus sociales et moins dating. Bien sûr, tu peux faire du dating si ça te parle et si ça te va. Et élargir ton sac d'amis, faire des choses que t'aimes et pas juste penser que tu trouveras les gens en bar. Entre guillemets. Je résume un peu, mais je vois malheureusement beaucoup de ça, en fait. Des gens qui ont plein d'autres intérêts, qui ont plein d'autres hobbies, qui ont des personnes qui sont très intéressantes et qui, pour eux, pour trouver quelqu'un, il faut qu'ils sortent, quoi. Et ils sortent en concert, ils sortent au bar, ils sortent en boîte et ça va pas. Et ça va pas, tout simplement. Donc ça peut paraître évident pour certains, peut-être plus pour les auditeurs de ce podcast, je le souhaite en tout cas, j'espère, mais en même temps peut-être pas, et si t'as besoin d'entendre ça, c'est cool, et j'espère que ça te servira en tout cas. Donc la deuxième étape, la deuxième phase, la deuxième période qui est compliquée, c'est on se prend pour acquis, on s'éloigne, on perd la connexion. Donc là, ça va être ceux qui sont en couple, mais qui sont sur une pente qui est descendante, qui vont dans la mauvaise direction, qui vont dans la direction entre guillemets de l'accumulation de problèmes, l'accumulation du désamour. Donc c'est souvent une question de temps qui passe avec des accélérateurs. Je trouve qu'il y a des choses qui vraiment accélèrent ça. Déjà, vivre ensemble. Il y a pas mal de gens qui sont réfractaires à vivre ensemble aujourd'hui parce que ils savent que vivre ensemble, ça va écourter la période du début. Les 2, 1, 2, 3 ans où tu es un peu sur un nuage, les 6 mois, les papillons dans le ventre. C'est vrai que le vivre ensemble, il peut écourter ça. Parce que on découvre l'autre plus vite. Voilà, ça accélère les choses. On passe plus de temps ensemble, quoi. Donc, tout est accéléré, entre guillemets. Donc, le vivre ensemble peut accélérer ça, ce désamour, cette accumulation de problèmes, etc. Les enfants, bien sûr, les carrières prenantes, les trop de responsabilités, etc. Ça peut bien sûr accélérer tout ça, et ça accélère tout ça. Les problèmes de santé, les problèmes de vie, entre guillemets, chez les proches, chez les amis, les problèmes, une maladie grave, ce genre de trucs, ça peut vraiment accélérer tout ça aussi, cette accumulation de problèmes, de désamour, cette déconnexion qu'on cultive petit à petit, ce prise pour acquis, Bien sûr, les croyances limitantes, les mauvaises habitudes, ce qu'on a gardé de notre enfance, qu'on n'a pas nettoyé, qu'on n'a pas transformé, qu'on n'a pas modifié. Et tout ça, donc, pour moi, le temps le fera naturellement et ces choses-là peuvent accélérer. Alors, je ne te dis pas qu'il ne faut pas vivre ensemble, je ne te dis pas qu'il ne faut pas d'enfants, je ne te dis pas qu'il ne faut pas une carrière qui est prenante ou qui est intéressante pour toi. Je ne dis pas que faut éviter que la vie elle te fasse des sales coups, mais comprends que ces choses-là, c'est des choses qui vont simplement peut-être faire que, de toute façon, ce qui serait arrivé arrivera peut-être un poil plus vite. Si tu veux faire un enfant après un an à être ensemble, ça va challenger ton couple un peu plus tôt, quoi, que les autres couples qui n'ont pas eu ça. Ça serait peut-être venu après 4-5 ans s'ils n'avaient pas eu d'enfant, les problèmes que toi, tu peux rencontrer, parce que ou ça aurait peut-être pris le temps d'avoir une carrière prenante, ce genre de choses. Donc là, il y a pas mal de pistes que je trouve qui sont importantes à explorer, quelle que soit ta situation. Mais si tu vas vraiment dans une situation, tu te rends compte qu'il y a du déclin, que tu vas dans... Vraiment, il y a de plus en plus de désamour, d'accumulation de problèmes, moins en moins de solutions trouvées, et tu sens que si on faisait ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, compliqué, quoi. 6 mois, peut-être. Hein, peut-être qu'il y a des pentes plus ou moins raides. Hein. Des fois, la dégringolade, des fois, on trébuche dans le ravin, quoi. Hein. Des fois, on est sur une pente glissante et on glisse petit à petit, mais des fois, on trébuche dans le ravin aussi. Donc, quelques pistes qui me semblent importantes. Je ne vais peut-être pas toutes les détailler, enfin, en détail, oui, les détailler. Il y a d'autres podcasts aussi, il y a d'autres contenus qui vont t'aider à un peu les explorer davantage. Mais bien sûr, pour moi, c'est apprendre à recommuniquer souvent et avec ouverture et bienveillance. Ça me paraît essentiel. Plein de couples que j'accompagne, ce que je vois par, enfin, en stage, quand je suis participant ou assistant, ce genre d'endroit, c'est, on ne se parle plus, on ne s'est pas dit les choses, on a accumulé les non-dits, on a accumulé les tabous... On est maladroit quand on communique, du coup on a essayé de le faire, mais on s'est fait mal, du coup on s'est fermé, du coup on n'en parle plus, c'est un tabou, et on n'ouvre plus ce couvercle-là, on soulève plus ce couvercle-là, on n'ouvre plus cette porte, et c'est une catastrophe. Donc là, il y a un gros travail à faire souvent de recommunication, de dire les choses, c'est pour ça que la thérapie de couple, ça peut être bien, il y a une personne tierce qui est dans la salle, quelqu'un de neutre, quelqu'un en plus qui a les compétences pour accompagner, pour recadrer, pour qui va pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, qui va rester neutre, qui va pas... Voilà, un ami, c'est parfois compliqué, quoi, de se confier à un ami, de faire ça devant un ami ou quelqu'un qu'on... C'est plus difficile d'être neutre. Donc, un thérapeute, ça peut être faire de la thérapie. S'il y a un problème de communication, ça peut être quelque chose qui est très bien. Moi, j'ai un e-book qui t'aide à mieux communiquer, qui est gratuit. Tu peux aller sur graindecoeur.fr, tu mets ton prénom, ton email dans un des formulaires et tu vas le recevoir gratuitement par email, tout simplement. Donc, tu peux le télécharger. Tu peux aller voir du côté de la communication non violente. Tu peux aller voir de plein de choses autour de la communication qui peuvent t'aider, mais ça me paraît vraiment être essentiel. Quand on s'est éloigné, quand on s'est perdu, quand il y a eu tout ça qui est là. Ensuite, un deuxième problème, c'est qu'on passe plus de temps de qualité ensemble, donc c'est trouver du temps, créer du temps, bloquer des périodes, des blocs dans l'agenda d'une heure, de deux heures pour avoir des conversations, pour faire l'amour, pour aller se promener, pour peut-être justement pas faire l'amour. Passer, se mettre nu et faire des câlins ou rester en sous-vêtements et juste du toucher bienveillant, du toucher sur la peau, sur les parties du corps qui sont pas sexualisées, des choses comme ça pour vraiment amener de la douceur, de la tendresse, de la connexion, du soin, de l'amour, voilà, toutes ces choses-là dans la relation et recréer ça. Donc souvent, on garde ces choses-là pour la dernière chose de la journée, donc il y a absolument tout qui passe avant, c'est si on a énergie, si on a le temps, donc si tu as une carrière prenante, si tu as des enfants, si tu as des problèmes de santé, si tu crois que le couple ça se fera naturellement parce que tu as cette croyance à la con, eh ben ça va être compliqué parce que comme tu vas le garder pour la fin de la journée, la majorité du temps tu vas être claqué, et moi ça nous arrive parfois dans ma relation, ça nous arrive de tomber dans ce piège-là, quoi. On fait tout, on s'occupe de la maison, du travail, du truc, du machin, et puis t'arrives le soir, t'es juste claqué, quoi, t'es rincé de chez rincé, et puis tu mets la télé, tu vas te coucher, tu regardes, tu te dis, bah tiens, on a une série qu'on voulait regarder, on va commencer ça, et puis tu passes, c'est pas du mauvais temps que tu passes, mais si tu fais que ça, s'il n'y a plus que ça, s'il n'y a plus de temps de conversation, s'il n'y a plus de temps pour faire l'amour, s'il n'y a plus de temps pour passer du temps de qualité ensemble, bah tu verras que... Bien sûr, tu vas cultiver la déconnexion, tu vas cultiver le désamour, etc. Et ça va poser vraiment problème. Donc là, c'est première chose, c'est apprendre à communiquer, apprendre à recommuniquer si tu le faisais bien avant, créer du temps dans l'agenda, donc vraiment des sorties en amoureux, aller au resto, aller faire des sorties culturelles, c'est important pour toi, dans la nature, si c'est important pour toi, des choses comme ça, quoi, des choses qui font du bien au couple, qui ressourcent le couple, voir des amis, peut-être si vous êtes social tous les deux, etc. Et là, par rapport aux croyances, peut-être, hein, comprendre, comme je te disais, que ça ne se fera pas tout seul. Donc faire des efforts, c'est une absolue nécessité. Et plus ton couple y dure, plus ta vie elle est prenante, enfant, carrière, etc., plus tu vas avoir besoin de faire ça, en fait. Alors ça peut être le conseil de couple, comme je te partage dans l'e-book gratuitement, où c'est vraiment une réunion pour discuter des choses importantes, discuter famille, carrière, éducation des enfants, argent, quoi, dire bah on en est où, quoi, avec les finances, il y a le prêt à payer, il y a l'éducation des enfants, il y a les trucs, il y a les sorties d'argent, il y a les rentrées d'argent, où on en est, qu'est-ce qu'on fait quand on prépare notre retraite, on prépare nos vieux jours ou pas, comment on gère ces aspects-là. Ça peut être des choses, je sais pas, si vous êtes tous les deux entrepreneurs, faire le point sur vos entreprises, sur vos business, dire bah voilà, moi j'en suis là, j'ai cette problématique-là, là j'ai deux employés, c'est très compliqué, toi tu ferais quoi, est-ce que t'as, voilà, et puis s'aider, quoi, s'écouter déjà, se parler de nos vies, c'est déjà pas mal, se parler de nos vies, c'est un bon début. Donc comprendre, ça se fera pas tout seul, et vraiment bloquer, si tu bloques des heures dans ton agenda pour des choses importantes, comme un rendez-vous chez le dentiste, bah, si ton couple il est important, tu vas devoir faire ça aussi, et si tu regardes, et je suis le premier des fois à pas le faire, à me dire, mais non, on a le temps, tu vois, on a un emploi du temps flexible, j'ai vraiment la chance d'avoir une vie avec un emploi du temps flexible, avec pouvoir aménager mes horaires, plein de trucs, et en même temps, bah, j'ai aussi des contraintes, moins que la majorité des gens, et je suis le premier à penser que, ah bah oui, t'en fais pas, ça va se faire tout seul, on le fera ce soir, ou on le fera plus tard, on aura cette conversation plus tard, et puis des fois, je me rends compte que ça fait plusieurs semaines que je me dis ça, et sur le coup, tu te rends pas compte, tu te dis, ah bah non, et puis demain, tu te redis la même chose, et puis, ouais, tu regardes en arrière, t'es là, ouais, ça fait 3 semaines qu'on avait dit qu'on aurait cette conversation, qu'on préparait ce truc-là, qu'on travaillerait là-dessus, qu'on ferait ça ensemble, qu'on ferait cette sortie, cette promenade, ce truc. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec le fait que ça arrive, c'est juste qu'il faut connaître l'antidote à ça, et notamment, c'est de bloquer du temps dans ton agenda. Et avoir la croyance que ça ne se fera pas tout seul. Donc faire des efforts, qui est une absolue nécessité, et encore surtout, plus t'es occupé, plus ta vie est prenante, plus t'as de passion, plus t'as de projets, plus t'as d'enfants, plus t'as de choses qui vont te détourner, on va dire, de ta relation, plus ça va être important d'avoir cette rigueur-là. Il y a des gens qui te disent que c'est la routine, c'est la... Merde, je trouve pas le mot. C'est pas la routine, c'est quand t'es dédié, quand t'es persistant. C'est la rigueur qui crée la liberté, en fait. Les gens qui se sentent libres, souvent, c'est des gens qui ont une certaine rigueur sur la gestion de leur temps. Parce qu'après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent du temps qu'ils ont décidé de garder pour leur liberté, entre guillemets. Alors que des gens qui ont plein de temps et qui l'utilisent un peu n'importe comment, des fois, se sentent pas libres du tout, tout simplement. Donc la rigueur, elle est importante, et peut-être que ça te parlera, et peut-être que tu as besoin d'un peu de rigueur dans ton couple pour prendre soin du couple. Et bien sûr, s'il y a des enfants, ça complique tout, ou des carrières vraiment à haute responsabilité. Donc là, pour moi, c'est pas essentiel de se faire aider, de se faire accompagner, babysitter, famille, pour trouver du temps pour le couple, pour dégager du temps pour le couple. Là, moi, cet exemple, je sais plus où j'ai entendu ça, c'était sûrement dans un podcast d'une psychologue, je crois, qui disait qu'elle avait cette famille où ils disaient à leurs enfants, ils disaient, bah, papa et maman, c'était pas des bébés, mais ils avaient 7 ans, 8 ans, 10 ans, je sais pas, ils disaient, bah, là, papa et maman, ils prennent du temps pour eux, ils vont faire l'amour. Les enfants comprenaient pas trop ce que ça voulait dire, ils avaient pas nécessairement tout expliqué, mais ils disaient, bah, là, c'est du temps pour papa et maman, c'est important. Et s'il y a quelque chose, vous avez le droit de frapper à la porte. S'il y a quelqu'un qui se fait mal, etc., vous avez le droit de frapper à la porte, mais il ne faut pas rentrer dans la chambre. Papa et maman, ils vont prendre une heure, et voilà. Et ça, je te prends cet exemple-là, ce qui met mal à l'aise plein de parents. Il y a plein de parents qui ne sont pas à l'aise de dire « on va faire l'amour avec papa et maman », les enfants ne savent pas trop ce que c'est, mais... parce que c'est tabou, on a honte, on a peur, on ne sait pas trop, etc. Il y a des familles qui le font et dans lesquelles ça se passe bien. Après, peut-être que toi, tu as besoin d'une autre solution. Mais c'est une idée. Ça peut être la babysitter, ça peut être la famille, etc. Peut-être qu'il faut trouver un petit peu d'argent dans le budget pour vraiment se payer une babysitter au moins une fois par mois pour avoir 3 heures, quoi, pour se faire un bon resto, avoir une bonne conversation, faire l'amour. Et ça peut faire beaucoup de bien, quoi. Ça peut être très bien. Ou juste parler, des fois, c'est aussi OK, quoi. Il n'y a pas de souci. Le faire l'amour n'est pas nécessairement... une nécessité, mais il y a aussi beaucoup de gens, je le mets là parce que il y a pas mal de couples qui ont des enfants, c'est un peu leur problème, quoi. Ils passent plus de temps ensemble, ils parlent plus, ils font plus l'amour. Bien sûr, il peut y avoir d'autres problématiques, hein. Ils dorment pas, ils prennent pas soin d'eux, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est aussi des couples. Si je parle du couple, c'est un peu ce qui manque de manière récurrente, on va dire. Et peut-être une source de motivation pour ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens, j'ai croisé pas mal de gens, j'ai pas d'enfants, et a priori j'en aurais pas tout de suite, vu que j'ai décidé de m'engager dans une relation avec une partenaire qui n'en veut pas, qui n'en veut plus du moins. Mais je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui ont vécu vraiment des transformations de vie, mais fabuleuses, pour leurs enfants. Des pertes de poids, des changements de carrière, des gens qui veulent réussir leur vie d'entrepreneur. Pour vraiment, c'est la motivation principale, c'est pour leurs enfants. Alors pourquoi pour leurs enfants? Pour passer du temps avec eux, pour leur permettre une certaine aise financière, etc. Moi, ce que je t'invite à prendre en compte, et sans te mettre une pression, sans te juger, sans te blâmer, c'est vraiment pas le but, et je sais que c'est facile quand on est parent des fois d'aller vers ça, c'est de comprendre que toi, tu as appris à aimer chez toi quand tu étais enfant en regardant tes parents. Tes enfants, ils apprennent à aimer, à être aimé, ce que c'est d'aimer, d'être aimé, ce que c'est que d'être en couple, les rôles de l'homme, le rôle de la femme, le rôle, etc. Tes enfants, ils sont en train d'apprendre ça en te regardant toi. Et bah, peut-être que tu as envie de leur donner le bon exemple, en fait. Ton enfance, elle t'a conditionné à énormément de niveaux, que tu y crois ou pas, peu importe, pour moi, c'est un fait. Si tu regardes, si tu fais un minimum d'introspection sur toi, que tu ailles du côté de la psychologie, mais pas que. Il n'y a pas que les psychologues qui en parlent, les yogis en parlent aussi, on va dire les Grecs en parlaient aussi, je ne sais plus c'était quel. C'était les Grecs qui disaient donne-moi un enfant de 0 à 7 ans et puis j'en ferai ce que j'en veux, quoi. C'est tellement malléable à cet âge-là, dans ces âges-là, c'est vraiment. Et puis il y a les ondes, enfin, si tu vas du côté un peu plus, je ne sais pas si c'est scientifique ou ésotérique, un peu entre les deux, mais la fréquence des ondes du cerveau à cet âge-là fait en sorte que c'est proche de mémoire, c'est proche de l'hypnose, donc voilà, tu es vraiment une éponge, quoi. Donc t'es vraiment malléable, donc c'est des années qui sont vraiment formatrices, donc tu vas apprendre à être en relation, tu vas apprendre c'est quoi un couple, tu vas apprendre c'est quoi un homme dans le foyer, c'est quoi une femme dans le foyer, c'est quoi, tu vas apprendre ces rôles-là en fait. Alors bien sûr, il y a la pression de notre société par-dessus ça, qui en plus de tes parents, de comment ça fonctionnait à la maison, qui en a rajouté une couche, mais tu vas apprendre à être conditionné à ce niveau-là. Donc ça peut être important de te dire, moi pour mes enfants, j'aimerais leur montrer un exemple de couple qui s'aime, de couple qui est tendre, de couple qui a des projets de vie, voilà, et te dire, je vais utiliser cette source d'énergie-là qui va peut-être te motiver ou qui t'a motivé pour perdre 20 kilos, qui t'a motivé pour gagner de l'argent, qui t'a motivé, et te dire, je vais utiliser cette même énergie pour prendre soin de ma relation, pour trouver du temps, les ressources nécessaires, de l'argent, du temps, pour cultiver l'amour, pour entretenir cette relation, pour vraiment prendre soin, pour que tes enfants ils aient cette image de voilà, c'est quoi une relation saine en fait, majoritairement saine. C'est pas une relation parfaite, c'est pas une relation idéale, mais c'est pas une relation qui est négligée, c'est pas une relation qui est abusive, c'est pas une relation qui est complètement oubliée, c'est une relation qu'on prend soin, c'est quelque chose qu'on construit, on communique, on apprend à régler les problèmes ensemble, on choisit, on crée l'équipe, tout ça. Ça peut être vraiment un beau cadeau que tu fais à tes enfants et un beau cadeau que tu te fais à toi par la même occasion en fait, et que tu fais en plus à ton ou ta partenaire, etc. Donc ça peut te motiver. Je pense que c'est quelque chose à regarder, quoi, et se rendre compte aussi de l'impact que ça a. Et c'est facile de fermer les yeux et de ne pas se poser cette question-là, et de se demander plutôt, il faut que je leur apprenne la politesse, il faut que je leur apprenne à être propre. Oui, bien sûr, c'est important ça, mais aussi, comment t'apprends à tes enfants à être en relation avec les autres humains, en fait. Et ça passe par la relation que t'as avec ton ou ta chérie, avec ton coparent, la personne avec qui tu es, quoi. Donc ça, c'était un peu la deuxième phase. Donc on se prend pour acquis, on s'éloigne, on perd la connexion. Pour ceux qui vivent, voilà, les enfants, les carrières prenantes, des problèmes de vie, des choses comme ça. Et bien sûr, la troisième étape, c'est après tout ça. C'est les vieux couples, entre guillemets. C'est peut-être que les enfants, ils sont grands. Peut-être que la retraite est déjà là ou presque là. Peut-être que tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans. Peut-être que la carrière, elle est plus importante parce que la vie, elle ralentit. Les priorités changent des fois à ces âges-là, quoi. Nous, on a eu pas mal de gens... quand on a fait des ateliers avec ma compagne, on avait soit des gens jeunes qui n'avaient pas d'enfants, soit des gens qui n'avaient plus d'enfants, entre guillemets, qui étaient grands, parce que c'est ceux qui ont le temps. Les gens qui avaient des enfants, on a essayé de faire des ateliers pour les couples, des couples avec des enfants, etc. Ça n'a pas marché, parce qu'ils n'ont pas trouvé la babysitter, ils n'ont pas trouvé le temps pour venir à ces ateliers-là, en fait. Alors que les gens qui n'ont pas encore des enfants, et les gens ou qui sont divorcés, ou séparés, il y a une garde alternée, etc., où il y a déjà cette étape-là qui s'est arrivée, et où les gens qui n'ont plus besoin d'être parents, entre guillemets, à plein temps, parce que les enfants, ils ont 25 ans, ils viennent. Donc, tu vois, on a pas mal échangé avec ces gens-là, quoi, sur cette phase de vie, sur leurs problématiques à eux, sur qu'est-ce qu'ils vivent. Pareil, dans les stages de Tantra que j'ai participé, il y a eu pas mal de sacs de paroles où ces gens-là, ils parlent, etc. Il y a pas mal de gens qui vont vers l'ésotérisme, qui vont vers la spiritualité, qui viennent un peu plus tard que 20 ou 30 ans, quoi. Donc, des fois, quand tu es dans ces cercles-là, tu croises des gens un peu plus vieux que toi, qui sont un peu plus âgés, qu'on chemine un peu plus, c'est assez intéressant, quoi. Alors bien sûr, il y a ces couples-là qui sont encore ensemble, ils ont traversé des tempêtes, ils sont restés ensemble, sûrement l'amour il est encore là. Avec un peu de chance, il est moins conditionnel que jamais. Avec un peu de chance, il est plus profond et entier que jamais. Il est plus profond et plus entier que jamais. Et pourtant, des fois, ces gens-là, ils ont un peu l'impression de... Bah, c'est comme s'ils étaient sur deux îles différentes, et puis il y a un bout d'océan entre eux, quoi. Alors des fois, le bout d'océan, tu peux marcher à pied et aller sur l'autre île. Le sable n'est pas très profond. Des fois, c'est la fosse de Marianne, quoi. J'exagère un peu, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Parce que justement, il y a eu les enfants, parce que justement, il y a eu la carrière. On a été dans ce tunnel un peu où on a été submergé par toutes ces choses-là. On a négligé le couple et tout. On a malgré tout réussi à rester ensemble, malgré tout réussi à préserver une partie de la relation. Et en même temps, on n'a pas réussi. Alors pour certaines personnes, ça va être synonyme de séparation et de retourner à la case d'avant, de ce que je te disais, se remettre en couple, trouver la bonne personne. Donc, peut-être avoir des interactions sociales, faire des choses que t'aimes, vivre la vie de tes rêves, entre guillemets, la vie de plus possible, la vie la plus alignée possible. Et puis, enfin, moi, je sais pas, j'ai toujours fait des rencontres dans ces contextes-là, quoi. J'ai les mentors que j'ai notamment suivis et décidé d'écouter sur ces sujets-là, pas les love coach qui vont t'expliquer comment draguer sur Tinder, ils disent la même chose. Et c'est leurs expériences de vie à eux, c'est comme ça qu'ils accompagnent les gens, c'est comme ça que ça fonctionne aussi pour ces gens-là. Donc voilà, moi j'ai pas de problème à te dire ça, quoi. Et oui, c'est peut-être pas le plus rapide des fois, et c'est peut-être pas le plus compliqué, il y a des personnes qui galèrent un peu avec ça, et oui, et en même temps, voilà. Et ça t'empêche pas de faire les deux, de faire le côté dating et le côté social, et de voir, faire tes expériences, et de voir ce qui marche, quoi. Pendant 6 mois, pendant 1 an, des fois tu trouves quelqu'un rapidement, des fois tu trouves pas quelqu'un rapidement, c'est aussi ok, quoi. C'est aussi ok de vivre des choses difficiles ou des choses compliquées pendant le célibat, ça, on passe tous par là et ça nous fait grandir, ça nous fait du bien sur le long terme, pas toujours du bien sur le court terme, mais c'est aussi important. Mais donc si t'es encore en couple, t'es plutôt vers 50, 60, 70 ans, cette tranche-là un peu plus vieille, et ça peut être intéressant si t'es plus jeune de te dire que ça va peut-être t'arriver. Soit tu vas ressortir du tunnel enfant, carrière, séparé, divorcé, soit tu vas ressortir... très probablement ensemble et déconnecté et voilà avec des problèmes à régler, quoi. Donc en plus de ce que je t'ai donné, hein, bien sûr, il y a ce que je te disais tout à l'heure, la communication, le temps dans l'agenda, comprendre que ça se fera pas tout seul, etc. Je trouve un très bel allié pour aider à cette phase là c'est ce que j'appelle la curiosité, hein. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment mettre à jour ce que tu sais sur l'autre. Te rappeler que il y a eu tellement de choses, on a vécu tellement de choses depuis qu'on s'est rencontrés, quoi. J'ai plus affaire à la même personne, même si je crois connaître cette personne que j'ai en face de moi, c'est plus du tout la même. Et du coup, c'est poser des questions, c'est s'intéresser. Si quand je fais une déduction de « Ah oui, bah, il va réagir comme ça, elle va réagir comme ça », mais en fait, c'est quoi les nuances, là? Parce que là, moi, j'ai compris noir ou blanc, quoi. J'ai compris oui ou non. Mais pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu dis non? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça vient de la même source qu'avant? Est-ce que ça vient du même endroit? Et vraiment commencer à mettre de la nuance. Et moi, j'invite à faire ça dès le début de la relation, en fait. Mais ça peut être vraiment une belle période pour faire ça, quoi. Donc la curiosité, très bel allié. Parce qu'il y a eu des leçons de vie, des sagesses, il y a eu des expériences qui ont vraiment transformé nos vécus, qui on est. Ça peut être vraiment intéressant. C'est aussi une étape de vie où il y a pas mal de gens qui ont besoin de se réinventer, que ce soit le début de la retraite. Tu passes 50 heures, 60 heures au travail pour certaines personnes. Des fois, les fins de carrière sont intenses, hein, parce qu'on a eu des promotions, on a des responsabilités, on n'est pas tous aux 35 heures en fin de carrière. Et du coup, il y a vraiment se réinventer, se réapproprier son temps libre, ajuster avec le corps qui change. Il n'y a peut-être plus le même niveau d'énergie, le niveau de libido, si on parle de sexualité, de couple, de niveau de... Voilà, il y a tout ça qui change, en fait. Et le couple, il ne fait pas vraiment exception à ça. Il va falloir le réinventer aussi, parce que... on n'est plus les mêmes personnes, on a vécu tellement de choses qu'il va falloir retrouver. Il y a des gens qui vivent plus ensemble à cet âge-là, ou qui vivent ensemble, il y a des choses qui changent dans la fréquence de qu'est-ce qu'on fait ensemble, est-ce qu'on voyage ensemble, est-ce qu'on a des amis, peut-être qu'il y a plus d'espace pour des amis à cette période-là de la vie, ou à la famille, etc. Il y a des choses qui sont plus là, les enfants, la carrière, des choses prenantes, et en même temps, je connais personne à la retraite qui s'ennuie. Peut-être qu'ils s'ennuient les 2 premiers mois, les 6 premiers mois, mais tous les gens, moi, que je connais, qui sont un peu plus vieux, qui sont à la retraite, là, ils sont partis faire le tour de la France en randonnée, ils n'arrêtent pas, et tu regardes sur Facebook, ils sont partout, à droite, à gauche, Saint-Jacques-de-Compostelle, machin, ils sont là, ils vivent la vie de leur rêve, quoi. Ils ont un peu d'argent, en plus, si t'as eu une belle carrière, que t'as mis un peu d'argent de côté, que t'as payé tes emprunts, tes trucs, Que tu as réussi ce côté-là de ta vie. En plus, tu as des moyens, quoi. Tu n'as plus des enfants à charge et tout. Tu peux faire des cadeaux à tes proches. Tu peux aimer les gens en leur faisant des cadeaux. Pas parce que, pas acheter leur amour, mais juste parce que, voilà, y a aussi cette période-là de la vie où des fois, on a envie de donner, en fait. Il y a vraiment ce cycle-là de la vie où on a pris pour soi, on a pris des conseils, on a pris de l'argent, on a pris plein de trucs. On veut redonner aux autres. Donc, ça peut aussi venir à travers ça, faire des cadeaux, je sais pas, soutenir une cause qui te tient à cœur. Mais du coup, il y a vraiment ce côté de se réinventer, quoi. Et moi, il y a réajuster ta vie, réévaluer certaines décisions, te reposer certaines questions peut-être que tu t'es posé à ta crise de la trentaine, de la quarantaine, et te les reposer à 50, 60, 70 ans, et voir si les réponses sont différentes, etc. Parce que ce qui se passe, hein, c'est... Parce qu'en fait... Alors, pardon, je reviens, parce que je suis en train de confondre deux choses que je voulais amener, en lisant vite fait mes notes, mais... Donc, ok, donc approprier ton temps libre, ajuster avec le corps, etc. Ça, on vient de le voir. Donc, c'est aussi une période de libération. Moi, je croise beaucoup de personnes qui, vraiment... c'est un peu comme le printemps pour eux. Malgré, des fois, tu te dis, bah ouais, t'es vieux, j'ai plein de potes, j'ai plein d'amis qui ont peur de vieillir, qui ont peur d'arriver à ces âges-là, quoi. Et en même temps, alors bien sûr, tu vois des gens qui sont en mauvaise santé, qui sont aigris, qui vieillissent mal, entre guillemets, quoi. Et tu vois des gens, waouh, c'est beau, quoi, de les voir à 50 ans, 70 ans, ils se libèrent de choses, ils ont appris leurs erreurs, comme je dis, ils sont libérés de certaines responsabilités, carrière, enfant, etc. Donc, il y a aussi un cheminement personnel, quoi. Ils ont appris à s'écouter, ils s'en foutent un peu plus de ce que les autres pensent, quoi. Avec un peu de chance, ils ont fait un petit chemin spirituel, de développement personnel, en thérapie. Du coup, ils ont dégagé 2-3 casseroles, ils ont réglé quelques trucs. Et du coup, il y a vraiment... La vie, elle fleurit, quoi. C'est comme si... Et moi, je le vois un peu des fois, et je pense que je ne suis pas encore tout à fait là. Mais je le vois des fois dans des personnes qui sont un peu plus âgées, quoi. C'est quand tu travailles sur toi, tu fais ton développement personnel, tu fais ta voie spirituelle, tu fais ton travail en thérapie, etc. Des fois, quand tu es dans le... Ma compagne, elle dirait, quand tu es dans le tambour de la machine et que la machine est en marche, tu te rends pas compte des changements, quoi, qui sont faits. Est-ce que tu es encore pris dans ce cycle, hein, voilà, qui chamboule, etc. Mais il y a un jour où, paf, tu arrives à prendre un peu de recul et tu récoltes un peu tous ces fruits d'un coup, quoi. Tu as réglé assez de problèmes, tu t'en fous assez des autres, de ce que pensent les autres. Tu t'es libéré d'assez de responsabilités pour que tu peux profiter. Tu peux profiter de toutes ces choses-là. Tu te dis, j'ai grandi ici, j'ai mis ça en place et tout. Puis là, tu profites. Et moi, je croise beaucoup de gens dans ces âges-là. Et c'est peut-être aussi une source d'inspiration. Moi, c'est définitivement une source d'inspiration pour moi. J'ai pas voulu vieillir trop tôt, entre guillemets, mais j'ai toujours... Moi, ça m'a pas fait peur, la vieillesse. Mais parce que j'ai pris des exemples... Ça me fait pas peur, la vieillesse. Parce que j'ai pris des exemples de personnes âgées heureuses, personnes âgées en bonne santé. J'ai des potes, ils ont peur de vieillir parce que eux ils ont vu les vieux qui décrépissent, entre guillemets, qui ont des problèmes de santé. Et voilà, donc du coup, j'ai fait mes choix de vie par rapport à ça aussi, me dire, il faut pas que je sois en surpoids, faut que j'ai une activité physique, faut que je me sente bien émotionnellement, mentalement, etc. Il y a toutes ces choses-là qui font que, avec des hauts et des bas dans tout ça, mais qui m'amènent à me dire, je vais préparer mon... Si c'est un printemps, peut-être que c'est cette période de vie, préparer mon printemps, quoi, pour que mon printemps, il soit fleuri et des fruits plus tard à l'automne, etc. Enfin, et ça peut être vraiment une période intéressante parce que, encore une fois, appris à s'écouter. Donc là, il y a ces périodes de se réinventer, il y a ces périodes peut-être de libération. Ça peut peut-être paraître bizarre, hein, certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens qui vivent une libération sexuelle à ces âges-là, quoi. Des femmes notamment, mais pas que, des hommes, parce qu'ils sortent de ce rôle du masculin, ils ont leur problème d'érection, leur problème de leur baisse de testostérone, donc ils doivent avoir un rapport à l'autre, à la sexualité qui est très différent. Alors ça passe souvent par une période un peu compliquée, hein, parce que je suis plus le mec alpha que j'étais, je suis plus l'amant endurant que j'étais, je suis plus l'amant bandant que j'étais, et en même temps, je deviens autre chose, je deviens une autre personne dans mon rapport à l'intimité, à la sexualité, je découvre d'autres manières d'être en relation, d'autres manières de faire l'amour, de manière d'être touché, de toucher, de recevoir, de donner, etc. Et du coup, il y a vraiment un épanouissement qui peut se faire à cet âge-là. Et donc, c'est pour ça que je te parlais, j'ai commencé en te parlant de réinventer. Se réinventer, se redécouvrir et faire place au changement, quoi. Ça peut être vraiment une très belle période qui est très riche, belle, connectée à l'amour, connectée à la sexualité, connectée à soi, connectée à l'autre, connectée... Souvent, il y a aussi une sorte d'éveil spirituel qui arrive à ce moment-là, connectée à quelque chose de plus grand. Et dans certaines... Dans le yoga, j'écoutais notamment Sadhguru qui en parlait une fois, qui disait que pour lui, ça avait à voir avec le cycle des lunes, en fait. C'est-à-dire que Le fait que là, que, enfin, qu'il y ait un cycle des pleines lunes, etc., ça influence, entre guillemets, physiologiquement à certains niveaux notre corps, et puis plus tu as été exposé à ça, donc quand tu vieillis, plus tu es sensible à ce qui est subtil, plus tu es sensible à ce qui est ésotérique, plus tu es sensible à ce qui est plus grand que toi. Alors, pour certains, ça va être un dieu, pour d'autres, ça va être la vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient naturellement, et moi, sans nécessairement être d'accord avec cette explication-là, c'est quelque chose que je constate. C'est vrai que les personnes qui sont plus vieilles que moi ont tendance à une sensibilité à la spiritualité qui est... Voilà, ça, c'est peut-être lié au cercle que je fréquente et dans mes hobbies à moi, mes intérêts à moi, mais ça me semble juste. Donc c'est une très belle période pour te réinventer. Donc voilà un peu les trois phases de vie que je voulais te parler avec ces pistes, notamment la curiosité aussi, hein, pour les vieux couples. Vraiment ne pas perdre la curiosité. J'ai toucher ces sujets-là plusieurs reprises dans d'autres podcasts, plus ou moins directement, ces trois phases de vie. Tu verras qu'il y a sûrement plein de choses que tu peux mettre, plein de réponses que tu peux amener, plein de pistes à explorer, en plus que je partage aujourd'hui. Mais voilà, c'était l'inspiration du jour. J'espère que c'était utile pour toi, que c'était important. N'hésite pas, c'est un podcast un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un retour. Je vois qu'il est un peu long, on est déjà à 51 minutes. Donc n'hésite pas à me faire un retour de si tu aimes le format, si c'était quand même utile pour toi. Par email, tu postes sur une des plateformes où tu écoutes le podcast, etc. Je trouverai ton commentaire. N'hésite pas à me faire un petit retour. Comme chaque semaine, j'aimerais te rappeler que si tu veux soutenir le podcast, tout simplement, la meilleure chose à faire, c'est de t'abonner, de le partager et aussi de mettre un petit commentaire avec une note, si possible 5 étoiles si ça te plaît. Et voilà, un petit retour de comment il t'a servi ce podcast ou les autres, pourquoi tu l'écoutes, etc. La majorité des gens qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, je te remercie d'avance, et puis merci pour ceux qui l'ont déjà fait, et puis merci d'écouter. Si tu t'abonnes pas, c'est aussi tout à fait ok. Moi, encore une fois, j'ai des podcasts où je ne m'abonne pas partout, tout le temps, à tout ce que j'écoute. Des fois, j'écoute 3 podcasts, 10 podcasts, je passe à autre chose, c'est aussi ok, t'es le bienvenu si c'est comme ça que tu consommes ce que je propose, ou que tu écoutes ce que je propose. Ensuite, la deuxième chose, c'est les accompagnements. Donc si jamais tu traverses une de ces phases-là et que je te dis que peut-être ce que je partage, ça fait du sens et que tu te sentirais... tu sentirais que j'ai quelque chose à t'apporter dans ton cheminement, dans ce passage-là, dans cette traversée-là, l'accompagnement, il est principalement fait pour ça. Donc des gens qui ont envie de régler quelque chose, qui ont un élan, c'est soutenir un élan, c'est pas juste « Oh, à l'aide, je sais pas quoi faire, je suis perdu ». Peut-être que la thérapie sera plus appropriée pour ça. Moi, c'est plus vraiment pour soutenir un élan, des choses que tu as envie d'améliorer, de transformer, dans qui tu es dans le couple, comment tu es en relation, ta relation, etc. Si tu veux transformer ta partenaire, c'est peut-être pas le bon endroit non plus. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Mais si tu veux transformer toi ou transformer ton couple en étant impliqué toi et en transformant toi, l'accompagnement peut être très bien. Donc tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un onglet accompagnement avec ce que je propose, des explications, des tarifs, etc. Donc n'hésite pas à faire un tour et à me contacter. Tout est expliqué sur le site s'il y a besoin. Et enfin, j'entends en parler tout à l'heure, c'est l'e-book qui est gratuit, que tu peux télécharger sur graindecoeur.fr aussi. Prénom, email dans un des formulaires, tu le reçois par email du coup, et tu peux le télécharger et le lire où tu veux. Je te souhaite une super semaine, je te dis à bientôt, ciao.